L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
D'Aristide de Cyrène jusqu'au mur de mai 68.
L'atome n'est pas un insécable.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Une cuisine est le reflet d'une époque.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
Est-ce que, d'une certaine manière, il n'y a pas derrière tout ça une logique?
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Il y a beaucoup de choses en nous,
les particules élémentaires,
que nous ignorons.
Je veux bien répondre quand même.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Vraiment, ça ne sert à rien.
Bien qu'au fond, on s'aperçoit de plus en plus que...
Das Kapital, il ne dit pas der Kapitalismus.
L'Agora des Savoirs. Des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
La science est un discours.
Du 4 novembre 2009 au 16 juin 2010, à la découverte de nos origines, une trentaine de grands conférenciers vous invitent à un voyage au cœur de leur discipline. Astrophysiciens et biologistes, philosophes et historiens, théologiens et anthropologues se succèdent. Le mercredi soir à 20h30, salle Rabelais.
Bonsoir, Divergence FM 93.9, nous sommes en direct depuis le Centre Rabelais, comme tous les mercredis soirs, pour l'Agora des Savoirs, une série de conférences proposées par la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM. Ce soir, sixième conférence du deuxième cycle, l'homme, la société, la culture, est invité Jean-Claude Amessin, médecin, immunologiste, chercheur en biologie à l'INSERM. La conférence, Penser le manque, la mort dans la condition humaine. En intervenant local, nous aurons Pascal Nouvel, professeur de philosophie des sciences à l'Université de Montpellier 3.
Il va donc nous parler d'un sujet ce soir particulièrement joyeux, la mort. Et il va le faire... D'après les informations que j'ai pu récolter jusqu'ici, dans deux sens différents. La mort cellulaire, d'une part, la mort d'une cellule particulière, et puis la mort d'un individu humain plus spécialement. Et ces deux sens sont quand même assez différents pour ce qui est du premier sens, le sens qui... concerne la mort d'une cellule, Kant, déjà il y a plus de deux siècles, avait remarqué une chose, c'est que les organismes vivants paraissent être sculptés de l'intérieur. Et c'est un des thèmes que Jean-Claude Amezen développe dans son livre qui s'intitule « La sculpture du vivant », qui a été publié en 1999, qui a été primé, qui a reçu deux prix, un prix de l'Académie française, d'une part, en 2000, et puis un prix de l'association, le prix Jean Rostand, de l'association des écrivains scientifiques. Et ça marque bien, je crois, la forme d'approche que peut avoir Jean-Claude Amezen, à la fois littéraire et scientifique. Et les deux cultures dont parlait Cipisno, la culture scientifique et la culture littéraire, eh bien, Jean-Claude Amezen tente de les réunir plutôt que de les opposer. Et c'est ce que montre donc tout à fait bien ce livre, La sculpture du vivant. Alors, je parlais de Kant à l'instant pour dire que Kant avait remarqué que les animaux, les êtres vivants, tous les êtres vivants, ont cette particularité de sembler être sculptés non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, à l'intérieur de leur organisme même. Si vous prenez une statue, un artiste qui fait une statue, disons par exemple pour fixer les idées, Michel-Ange qui fait le David, eh bien, il prend un morceau de matière, en l'occurrence un morceau de marbre de Carrare, et puis il enlève des parties de cette matière, il enlève des morceaux de cette pierre, de ce marbre. Et en enlevant progressivement ces morceaux, il arrive à l'œuvre qui est celle à laquelle il voulait aboutir. Et Kant donc remarque que pour ce qui est des organismes vivants, il y a certes cette sculpture extérieure, mais il y a une autre sculpture qui semble travailler à l'intérieur du corps. Et il s'interroge sur les causes possibles de cette sculpture-là. Quel est donc le sculpteur qui est capable de travailler à l'intérieur d'un corps? Et la réponse que donne aujourd'hui, une partie de la réponse que donne la biologie contemporaine, consiste à faire intervenir des mécanismes qu'on appelle des mécanismes d'apoptose, de mort cellulaire programmée, pour expliquer donc que certaines parties du corps sont détruites à un certain moment du développement de l'embryon pour permettre à d'autres de passer, pour permettre par exemple au sang d'irriguer les organes, etc. Et donc l'interrogation de Kant trouve ici une partie de sa réponse, et on peut comprendre par là pourquoi dans ce sens particulier, le sens de la mort cellulaire, eh bien la mort est utile et même indispensable à la vie. Mais alors il y a un autre sens, le deuxième sens que j'évoquais tout à l'heure, le sens plus humain de la mort, le sens plus humain, c'est-à-dire la mort d'un individu, d'une personne, qui implique souvent qui est souvent la cause de tristesse. Et bien sûr, beaucoup de philosophes, pas seulement des philosophes, de penseurs en général, ont réfléchi à cette question depuis bien longtemps et ont cherché, par des raisonnements, à apaiser cette tristesse dans la mesure du possible. Il y a par exemple Épicure qui s'est emparé de cette question. Épicure qui écrit ceci dans la lettre à Ménécée, qui écrit « La mort n'est rien pour nous. La mort n'est rien pour nous. » Et puis il explique « La mort n'est rien pour nous parce que pour craindre la mort, il faut être en vie. Et tant qu'on est en vie, on n'est pas mort. Et une fois qu'on est mort, on ne peut plus craindre la mort puisqu'on est mort. Donc la mort n'est rien pour nous. » La mort n'est rien pour nous. Oui, bon, peut-être. Mais enfin, c'est justement peut-être pas celui qui est concerné par la mort que ça pose le plus de problèmes. Peut-être que la mort n'est rien pour celui qui meurt, mais pour son entourage, pour ses proches, pour ceux qui le connaissent. Et alors, beaucoup de penseurs qui ont contribué à cette question, et notamment, bien sûr, des théologiens. Il y a notamment un théologien du XIXe siècle qui a proposé, dans une formule très proche de celle d'Épicure, curieusement proche, une version au fond toute différente. Ce théologien, c'est un chanoine, c'est le chanoine Scott Holland, qui écrit ceci dans un poème célèbre. Il écrit « La mort n'est rien, je suis simplement passé dans la pièce à côté ». Alors, entre ces deux positions extrêmes, finalement, celle de l'épicurien, celle d'Épicure, et puis celle de l'autre côté du théologien, il y a tout un éventail de positions possibles, de réflexions possibles sur la disparition, sur l'absence, sur le manque. Et c'est ici que je laisse la parole à Jean-Claude Amezen, puisque sa conférence s'intitule « Penser le manque ». Voilà, merci.
Merci beaucoup, et je suis heureux d'être parmi vous. Penser le manque, la question que je voulais aborder au-delà de la question des relations que la vie entretient avec la mort, c'est celle du manque, de l'importance du manque, de la permanence du manque et de la richesse du manque. Et penser le manque est tiré d'une phrase de Maurice Blanchot dans le livre Avenir, qui est que penser, c'est toujours penser ce manque qui est aussi la pensée, et parlant à le préserver, à préserver ce manque en l'amenant à la parole. Et donc c'est cette idée au fond que ce que nous percevons pas, ce qui nous manque, ce qui n'est pas là, est aussi important que ce qui advient. Le poète Paul Celan disait la même chose d'une autre façon quand il disait dans un de ses poèmes « Parle, mais ne sépare pas le nom du oui ». Donne à ta parole aussi le sens, donne-lui l'ombre. Regarde autour de toi comme tout devient vivant à la ronde. Il parle vrai, celui qui dit l'ombre. Et donc c'est cette réflexion sur la part d'oubli qu'il y a dans la mémoire, la part d'ombre qu'il y a dans la lumière, la part d'inconnu dans la connaissance, et la part de mort et de disparition qui existe dans la vie que je voulais évoquer. Et la première idée, c'est que, d'une manière générale, et d'une façon que d'habitude nous n'interrogeons pas, nous sommes faits d'absence. Nous sommes faits en permanence de la présence de ce qui nous a donné naissance et qui a disparu. La présence de l'absence. Et que ce soit les langues que nous parlons, les langues que nous écrivons, les villes dans lesquelles nous vivons, tout ce qui, la manière dont nous nous représentons l'univers et les autres, et même la façon dont nous séparons des morts, eh bien, ce sont, avant que nous ne les inventions, des choses que nous nous réapproprions et qui nous ont été léguées par des gens qui souvent ont disparu depuis longtemps. Donc il y a cette idée qu'au fond, nous sommes faits d'absence, et c'est à partir de cette absence que nous continuons à créer. C'est ce type de présence de l'absence auquel on a donné dans les sociétés humaines le nom de culture. Alors c'est vrai d'une manière très générale, c'est vrai de manière peut-être un peu plus surprenante, et ce qu'ont révélé les travaux des neurosciences depuis quelques années, c'est vrai au niveau de ce que nous voyons comme justement le contraire de l'absence, le contraire de la disparition, c'est-à-dire la mémoire. Et dans notre mémoire même, il y a là aussi quelque chose qui joue entre la présence et l'absence, et dit d'une autre façon, entre la mémoire et l'oubli. Vous savez que la mémoire, c'est à la fois l'empreinte en nous de ce que nous avons vécu, de ce qui nous est arrivé, et c'est en même temps la modification que cette empreinte a créée. Et donc, d'une certaine façon, si je me souviens de quelque chose, c'est que cette chose m'a transformé. Nous ne nous souvenons pas de ce qui ne nous a pas changé. Et donc, ce souvenir, quand je me souviens de quelque chose, je me souviens de ce qui est arrivé à un autre que moi-même, puisque cette rencontre, cet événement m'a modifié et m'a transformé. Donc, d'une certaine façon, la mémoire qui traduit à nos yeux la permanence de notre identité est en même temps la preuve que je deviens continuellement un autre. Et donc, d'une certaine façon, que la mémoire est tissée d'oubli, il y a même un certain nombre de travaux, mais Rilke, dans un texte, l'évoquait de manière remarquable, il y a sans doute un rôle constitutif de l'oubli dans la création même et dans la permanence même de la mémoire. Et puis, il y a ce dont nous nous souvenons en tant qu'individu, en tant qu'être humain, et puis il y a ce dont nous nous souvenons dans les cultures et dans l'histoire de nos sociétés. Et puis, il y a la mémoire de ce qu'aucun être humain n'a jamais vécu. Et cette mémoire, elle est forcément reconstruite. Et cette mémoire, c'est la mémoire des événements qui nous ont donné naissance avant même que l'espèce humaine, avant que l'humanité n'apparaisse. Et vous savez que la grande révolution scientifique des 150 dernières années commence d'ailleurs dans les sciences du vivant, commence en biologie, c'est la révolution darwinienne. Et cette révolution est l'explication sous une forme rationnelle, sous une forme scientifique, d'une idée très ancienne, Pascal Nouvel évoquait Épicure. L'un de ceux qui a le plus développé de manière très belle la pensée d'Épicure, c'est Lucrèce dans De la nature des choses. Et Lucrèce décrit un monde qui est au fond le monde que pensent aujourd'hui les évolutionnistes de notre temps, c'est-à-dire un monde en perpétuelle transformation, émergence, recombinaison et métamorphose. Le problème à l'époque de Lucrèce et pendant les siècles qui vont suivre, c'est qu'il n'y a pas d'explication pour rendre compte du fait tout à fait extraordinaire de la cristallisation de ces transformations dans ce que nous appelons l'adaptation, le fait que chaque être vivant est extraordinairement adapté à son environnement et que chacun des organes, chacun des composantes d'un être vivant ont l'air d'être adapté. Donc cette vision d'un monde qui change perpétuellement n'arrive pas à expliquer ces phénomènes d'adaptation. Comment est-ce que le hasard et la nécessité, les lois de la nature, ont pu arriver à cette configuration? Mais la grande idée darwinienne qui est déjà présente chez Lucrèce, c'est que hier est différent d'aujourd'hui et qu'avant-hier est différent d'hier. Et donc, d'une certaine façon, ce qu'était le monde avant que nous n'apparissions ne peut être que reconstruit à partir de tout ce qui nous entoure. Et cette reconstruction, comme vous le savez, aura ceci de surprenant, qu'elle inscrira l'ensemble des êtres vivants dans une généalogie commune. Et donc l'explication de toutes les différences qu'il y a entre un arbre, un oiseau et un être humain, eh bien, ne pourra plus être pensée que dans le cadre de leur parenté. C'est ce qui nous réunit, ce sont les liens de parenté qui expliquent ces différences. Ce qui semble manquer dans la continuité entre l'ensemble des êtres vivants et qui a entraîné leur classement en espèces différentes, eh bien, ce sont des variations sur une généalogie commune. Et donc, il y a cette idée de transformation permanente, mais à partir de quelque chose qui est une origine commune. Et ça va donner naissance, comme vous le savez, à l'idée de l'arbre. Il n'y a rien de plus solide et de plus durable parmi tous les êtres vivants qui nous entourent qu'un arbre. Et pourtant, l'arbre de l'évolution du vivant, qui traduit, qui représente, qui est une métaphore pour notre généalogie, est fait d'absence. Darwin, dans ses carnets secrets, qu'il écrira à l'âge de 27-28 ans, quand il va élaborer très rapidement l'ensemble de sa théorie qui va taire ensuite pendant 20 ans, dessinera un arbre et mettra comme titre « l'arbre de vie ». Et puis en dessous, il écrira « non, on devrait plutôt l'appeler le corail de vie, parce que la base de ses branches est morte, parce que les espèces qui ont donné naissance aux espèces qui nous sont contemporains, qui nous sont contemporaines, ont disparu ». Et donc ce symbole, qui est le symbole de l'être vivant le plus solide et le plus durable, représente en fait la succession des disparitions qui nous ont donné naissance. Aujourd'hui, cet arbre est représenté sous la forme d'un buisson. Et dans ce buisson, dans cette sphère dans laquelle les branches divergent et de temps en temps se réunissent en se bouturant pour former des branches nouvelles, dans cette sphère, la seule partie qui est vivante, c'est la surface. Et tout le reste, tout ce foisonnement de branches qui part depuis le début, il y a environ 4 milliards d'années, est encore une fois quelque chose qui a disparu, qui nous manque, et que nous reconstruisons, et qu'on ne cesse d'ailleurs de reconstruire de manière différente. Et donc, d'une certaine façon, la nouveauté, l'émergence de la nouveauté, la variation sur ce qui existe, c'est à la fois des choses nouvelles qui apparaissent et des choses anciennes qui disparaissent. Et donc, il n'y a pas d'émergence de nouveauté sans perte, sans disparition. Et quand cette perte prend une forme extrême dans le vivant, on lui donne le nom de mort. Mais l'émergence de la nouveauté est contemporaine et corrélée de manière indissociable à la disparition de quelque chose d'ancien. Donc au niveau de l'évolution du vivant, au niveau de cette histoire de 4 milliards d'années, ça prend une dimension qui est tragique. Vous savez qu'on considère que 99,9% des espèces qui sont apparues un jour sur Terre ont disparu. Et sur chacune des branches, eh bien, l'ensemble des ancêtres ont disparu après avoir donné naissance à leurs descendants. Et donc il y a à la fois quelque chose d'extraordinaire qui est la continuité de la vie. Depuis 4 milliards d'années, la vie ne s'est jamais interrompue. On pourrait dire que la vie, d'une certaine façon, n'est jamais morte depuis 4 milliards d'années. Et cette continuité est tissée d'innombrables discontinuités. Disparition des organismes et disparition des espèces. Et cette dimension tragique était extrêmement présente à l'esprit de Darwin. Vous savez peut-être que les deux dernières phrases de l'origine des espèces commence de la manière suivante. Ainsi, des guerres de la nature, de la famine et de la mort ont émergé les réalisations les plus spectaculaires que nous puissions concevoir. Et donc, c'est un constat de tragédie créatrice. Et ça termine par qui ont expliqué comment, à partir d'un début si simple, l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses ont évolué et continuent d'évoluer. Et pour lui, l'infinie diversité des formes les plus belles et les plus merveilleuses, c'est l'ensemble des êtres vivants qui nous entourent. Et donc les deux dernières phrases de l'origine des espèces, c'est à la fois le constat d'une tragédie et le retour d'un émerveillement. Et le lien indissociable entre cette tragédie qui fait partie des mécanismes qui créent la nouveauté et en même temps la beauté inépuisable de cette nouveauté. Pour Darwin, il y aura dans cette constatation une dimension morale. Une dimension morale non pas à l'échelle humaine, mais à l'échelle des êtres conscients, de tous les animaux qui sont conscients et qui sont capables de souffrir. Et il s'interrogera sur la quantité de souffrance qui existe dans le monde et qui préside à cette création incessante de nouveautés. Et il aura des phrases à la fin de sa vie dans lesquelles il dira que on peut se demander si la quantité de souffrance dépasse la quantité de joie qui existe dans le monde. Il est évident, il y a toute une série d'éléments pour penser que la quantité de souffrance est considérable, mais dit-il, on peut espérer que la quantité de joie peut-être la dépasse. Mais vous voyez que c'est quelque chose qui l'a hanté et qu'on ne peut pas d'une certaine façon considérer à partir du moment de l'émergence de la conscience, question aussi qu'il a travaillée parce qu'il l'a jugée cruciale quant aux mécanismes pouvant expliquer comment l'espèce humaine avait émergé à partir d'espèces non humaines. Donc cette question de l'émergence de ce qu'il appelle les capacités mentales, ce qu'on appellerait aujourd'hui la conscience ou la vie intérieure, et qui joue un rôle extrêmement important, mais qui se passe au sein d'un processus de relation de causalité, de loi de la nature, totalement indifférente et aveugle en ce qui concerne la souffrance ou la joie des individus conscients qui la peuple. Le psychologue anglais Adam Phillips dira que quand le bonheur commence à entrer en ligne de compte, des questions de biologie, des questions qui concernent la nature, changent de dimension et deviennent des questions de morale. Et donc vous voyez qu'on est devant un processus dans lequel, encore une fois, l'émerveillement devant le processus ne peut pas non plus être dissocié d'une impression de scandale ou d'une impression de tragédie en ce qui concerne ses conséquences. Et c'est cette idée aussi qui a été très déstabilisante, et là c'est une de ces dimensions, hein, que le processus de l'évolution a donné naissance à l'espèce humaine très tardivement, dans un processus qui ne l'avait ni prévu ni attendu. Et vous savez qu'on pense à ce sujet, on pense que la révolution darwinienne a profondément transformé la vision que l'être humain se faisait de sa place de l'univers en le décentrant. Freud disait qu'il y avait eu trois grandes blessures narcissiques pour l'humanité. La première, c'était la révolution copernicienne, c'est-à-dire que notre planète n'était pas le centre de l'univers, mais une petite planète périphérique qui tournait autour d'autres étoiles dans un vaste monde. Ça ne concerne encore qu'un élément géographique et un élément inerte. La révolution darwinienne, c'est l'émergence, encore une fois tardive et par hasard, d'un être humain après un processus, encore une fois, qui ne l'a pas prévu. Et de manière assez immodeste, Freud considérait que la dernière blessure narcissique, c'était sa propre découverte, c'est-à-dire le fait que ce que nous croyons être essentiellement de la pensée consciente est bâti pour une part extrêmement importante, sur des phénomènes inconscients qui se déroulent en nous sans que nous ne le sachions. Ce qui est intéressant, c'est que oui, bien sûr, ces révolutions ont décentré l'être humain, ont donné l'impression qu'au fond, nous étions moins, peut-être, que ce que nous pensions en ce qui concerne notre place dans l'univers. Mais d'un autre côté, ce qu'on méconnaît, c'est ce que je disais au début, c'est que ce décentrage nous a aussi rendus beaucoup plus proches de l'univers. Hein, le fait que nous soyons des cousins, des parents, de l'ensemble des êtres vivants qui nous entourent, fait que nous sommes plus inscrits dans l'univers vivant et dans l'univers contemporain que nous pourrions le supposer. 80 ans après la révolution darwinienne, il y a eu une autre révolution qui a été l'idée que l'univers entier était aussi transformation, évolution, métamorphose. C'est Georges Lemaître et quelques autres. Ça s'est appelé par dérision la théorie du Big Bang. Vous savez que c'est le nom que les détracteurs de cette théorie ont donné pour s'en moquer. Le nom est resté. Et donc, d'une certaine façon, cette révolution dans la physique qui a suivi de 80 ans la révolution dans les sciences du vivant, qui est la théorie darwinienne de l'évolution, cette révolution nous a inscrits, là aussi, dans l'univers, puisque nous sommes des parents, mais beaucoup plus éloignés, des planètes, des étoiles et des galaxies. Donc je crois qu'il y a là encore ce que nous avons perdu comme élément de centralité dans l'univers, nous l'avons gagné en importance, en quantité de proximité avec cet univers qui non seulement nous entoure, mais dont nous faisons partie. Darwin, je vous le disais, était profondément travaillé par l'idée de la mort, par l'idée des extinctions, par l'idée de la disparition des individus. Mais il voyait la mort comme résultant essentiellement de phénomènes de destruction, de phénomènes de famine, de phénomènes d'extinction. Et il y a un sujet sur lequel, de manière très étrange, il ne s'est pas penché, ou en tout cas n'a pas écrit, et ce sont les phénomènes de mort naturelle, obligatoire, que sont le vieillissement et l'espérance de vie maximale. C'est quelque chose qu'il a complètement délaissé, en tout cas dans ses écrits. Le deuxième qu'évoquait Pascal Nouvel, c'est ce qui survient aux cellules, qui nous composent, mais qui sont les éléments universels qui composent l'ensemble du monde vivant, et ce qu'on appelle la mort cellulaire. Là, pour une raison beaucoup plus simple, c'est que l'univers des cellules venait à peine d'être découvert au moment où il travaille, et que donc il sera émerveillé à l'idée que l'ensemble des organismes, des animaux et des plantes sont composés d'une myriade de petits organismes qui sont les cellules, mais il n'introduira pas cette dimension dans sa réflexion. Et donc, phénomène de mort naturelle est quelque chose qui, à de rares exceptions près, va rester en dehors du champ de la pensée de l'évolution du vivant et donc de la biologie telle qu'elle se pratique de manière active pendant 150 ans, de manière périphérique, parce que personne ne voit très bien comment ça peut être inclus dans la pensée darwinienne. Et donc il faudra attendre, en ce qui concerne le vieillissement, un siècle, le début des années 1950, pour que, pour la première fois, un immunologiste, Peter Medawar, quelques années avant de recevoir un prix Nobel de médecine pour sa découverte de la tolérance, publie un article, prononce une conférence qui s'appelle « Un problème non résolu en biologie ». Et le problème non résolu en biologie en 1951, c'est le vieillissement, ou c'est plutôt comment peut-on réconcilier et penser le vieillissement dans le cadre de la théorie darwinienne de l'évolution du vivant. L'un de ceux qui pensera, qui commencera à penser la mort dans le contexte de la pensée darwinienne, la pensera au niveau des cellules. Il s'appelle Elie Metchnikoff à l'époque. Il travaille en Russie avant de devenir un membre de l'Institut Pasteur et d'avoir lui aussi un prix Nobel d'immunologie à partir de ses travaux réalisés en France. Et il s'intéresse au développement des organismes, il s'intéresse au développement des embryons. Et il va être le premier à introduire, à faire entrer la théorie darwinienne à l'intérieur des corps des animaux et en particulier des embryons. Et il dira qu'au fond, tout se passe comme s'il y avait à l'intérieur d'un corps en train de se construire une lutte. C'est que Darwin utilisait l'expression de lutte pour l'existence. Une lutte entre les différentes parties, on dirait aujourd'hui les différents organes, les différents tissus qui composent un corps. Et il disait, au fond, il y a comme une disharmonie au début du développement embryonnaire, ce qu'il appelle une disharmonie initiale. Et cette disharmonie va être résolue par la construction progressive d'une harmonie dans laquelle, pense-t-il, la mort d'un certain nombre de cellules joue un rôle important. Alors la façon dont il l'imagine est assez lointaine de la façon dont elle a été découverte depuis un certain temps, mais il pose l'idée d'une relation entre l'évolution du vivant, la mort des cellules et la construction des embryons. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que non seulement la mort, comme l'évoquait Pascal Nouvel, joue un rôle extrêmement important dans la construction et dans la vie de tous les organismes vivants, mais que les relations entre la vie et la mort qu'elles impliquent sont de nature a priori contre-intuitive et très différente de ce que tous les scientifiques pouvaient penser avant une période plus récente. L'idée était que des organismes, des individus, ne peuvent mourir que de phénomènes de destruction, de blessures, de maladies, ou de phénomènes d'usure, d'agression de l'environnement, de passage du temps, ce qu'on appelle le vieillissement. Le fait que des phénomènes de mort cellulaire puissent exister à l'époque la plus précoce de la vie, c'est-à-dire au cours du développement d'un embryon, était évidemment incompatible avec l'idée d'un vieillissement. Les embryons étant tous sujet à ces phénomènes, ça n'avait pas l'air d'être lié à une maladie. Et puis, la plupart des embryons sont protégés de l'extérieur. Et donc, ça n'avait pas l'air d'être le résultat d'une agression. Et donc, c'est resté pendant très longtemps un mystère, pendant à peu près un siècle. Des phénomènes de mort cellulaire chez l'embryon ont été découverts. Et puis, comme ils étaient inexplicables, c'est souvent quelque chose qu'on méconnaît en science. Vous savez qu'on a l'impression qu'en science, on découvre quelque chose qui n'est pas explicable. On se dit, il faut absolument essayer de comprendre, ça veut dire que les théories qu'on a actuellement ne sont pas complètement valables et il faut en trouver de nouvelles. En général, c'est pas ça qui se passe. Quand vous découvrez quelque chose que vous n'arrivez pas à expliquer, en général, c'est un peu comme une dissonance. On a envie que ça s'arrête et donc on le met sous le tapis ou dans un tiroir et on passe à autre chose. Et c'est ce qui s'est passé pour les phénomènes de mort cellulaire au cours du développement embryonnaire. Ils ont été découverts, oubliés, puisqu'on ne les comprenait pas, redécouverts, comme si c'était pour la première fois, une vingtaine de fois. Et puis, il y a des explications qui ont commencé à être apportées. Et à ce moment, ils n'ont plus été oubliés. Et donc, si je devais schématiser ce qu'on sait aujourd'hui dans ce domaine, on peut le dire de la manière suivante. Ce qu'on sait, c'est que toutes nos cellules sont en permanence, à tout moment, capables de déclencher leur autodestruction. La deuxième chose qu'on sait, c'est que toutes nos cellules, dès qu'elles naissent, fabriquent à partir de leurs gènes, donc à partir de nos gènes, des molécules, des protéines, qu'on peut appeler des exécuteurs, et qui leur permettent de se détruire de l'intérieur. Et puis en même temps, elles fabriquent, à partir d'autres gènes, des molécules qu'on peut appeler des protecteurs, qui bloquent les effets des exécuteurs. En général, l'effet de ces protecteurs va durer 24 heures, 48 heures, 3 jours. Et à ce moment, si ces protecteurs ne sont plus actifs, il y aura déclenchement de l'autodestruction. Ce qui permet d'activer ou de produire ces protecteurs, c'est la nature des interactions que la cellule entretient avec les cellules qui l'entourent, c'est-à-dire avec d'autres cellules dans le corps. Et donc, ça a eu un certain nombre de conséquences, si je schématise, en ce qui concerne la vision qu'on peut avoir de la vie, au moins au niveau cellulaire. On considère d'habitude que la vie, à partir du moment où une cellule est vivante, est quelque chose qui va de soi. Ces travaux suggèrent, ces notions suggèrent que la vie procède de la négation d'un événement négatif, c'est-à-dire de la répression d'une autodestruction. Le deuxième élément, c'est qu'on a l'impression qu'on peut détecter à l'intérieur d'une cellule ce qui lui est nécessaire et suffisant pour vivre. Et ce que ces notions amènent, c'est l'idée qu'il y a une dimension collective dans la vie cellulaire et que je ne peux pas décrire ce qui est nécessaire et suffisant à la vie d'une cellule si j'oublie qu'il est aussi nécessaire la présence d'autres cellules, de certaines autres cellules et d'interactions entre les deux. Ce que ça crée aussi, c'est que ça change la vision d'un corps qui n'est plus que la somme des éléments qui le composent, mais qui est la somme des relations qu'entretiennent ces éléments et qui sont nécessaires à leur survie ou à leur disparition. Et donc ça crée quelque chose qu'on peut appeler une forme d'interdépendance, et même une forme d'interdépendance absolue. Et cette forme d'interdépendance qui repose sur une fragilité, qui repose sur justement cette capacité à tout moment de s'autodétruire et de disparaître, est quelque chose qui joue un rôle essentiel à la fois dans la construction des embryons, mais aussi dans la pérennité du corps, dans sa capacité à voyager à travers le temps. Ça change aussi la vision que l'on a de la mort, puisque non seulement la mort procède d'un phénomène et peut procéder d'un phénomène d'autodestruction et pas forcément d'une agression qui vient du dehors. Donc c'est plus l'idée de la mort simplement comme faucheuse qui vient du dehors pour détruire, mais c'est, Pascal Nouvel l'évoquait, c'est l'idée d'un sculpteur, ou plutôt d'une sculpture qui se fait, puisqu'il n'y a pas de sculpteur, d'une sculpture qui se fait et dans laquelle ce qui disparaît joue un rôle aussi important que ce qui est créé. De la même façon qu'une sculpture apparaît de ce que le sculpteur retire de la pierre. Ça joue un rôle extrêmement important au niveau du développement embryonnaire, par des phénomènes qui ont d'abord été observés en ce qui concerne la forme externe du corps, parce que c'est la plus facile à voir. Et donc, par exemple, au moment de la formation, lorsque les bourgeons qui vont former les bras ou les jambes se forment, ces bourgeons vont prendre une forme allongée, parce que la partie périphérique va disparaître. Les cellules qui les composent vont disparaître. Et puis lorsque vous avez la formation des mains et des pieds, eh bien, vous avez au début formation d'un moufle, et puis les tissus qui joignent les doigts vont disparaître. Et ce qui apparaît aussi à cette époque, c'est qu'il y a des variations. Les mammifères et les oiseaux aquatiques ont des pattes palmées. Les mammifères et les oiseaux terrestres ont des pattes avec des doigts individualisés. Et donc émerge l'idée que des variations aléatoires sur l'induction ou la répression de ces phénomènes d'autodestruction dans certaines régions du corps ont pu jouer un rôle important dans l'apparition d'organes nouveaux et donc dans l'apparition de propriétés nouvelles et peut-être d'espèces nouvelles. Ça joue un rôle dans la sculpture de la forme interne. Beaucoup des cavités de notre corps sont d'abord construites sous forme d'organes pleins et ensuite la mort va creuser le vide à l'intérieur. Ça joue un rôle dans le dimorphisme sexuel, dans beaucoup d'espèces, chez les mammifères, mais aussi chez certaines plantes. Dans les embryons apparaissent d'abord les ébauches des organes génitaux des deux sexes. Et ensuite, en fonction du sexe génétique ou d'autres facteurs dans d'autres espèces, les ébauches de l'autre sexe vont disparaître. Ça joue un rôle extrêmement important dans ce que nous pouvons considérer à des degrés divers comme les supports de notre mémoire et de notre identité, c'est-à-dire à la fois la construction de notre cerveau et la construction de notre système immunitaire qui nous défend contre les microbes. Et dans ces deux organes, le fait que chaque cellule va survivre ou va s'autodétruire en fonction des relations qu'elle aura établies avec des cellules voisines va entraîner de proche en proche la constitution d'organes dont la complexité dépasse tout plan préétabli. À titre d'exemple, nous avons dans notre cerveau adulte 100 milliards environ de cellules nerveuses, connectées chacune à plusieurs milliers d'autres cellules nerveuses, donc plusieurs millions de milliards de connexions. Nous avons 20 000 gènes. Et donc, même si l'ensemble de nos gènes n'était consacré à ça, qu'à ça, eh bien, les millions de milliards de connexions entre nos cellules ne pourraient pas être spécifiées sous forme d'informations génétiques. Et donc, ces phénomènes de construction, de déclenchement ou de répression de la mort cellulaire au fur et à mesure que les connexions se construisent, va jouer un rôle extrêmement important dans l'auto-organisation de cet organe, dans un phénomène qu'on appellerait aujourd'hui un phénomène épigénétique d'émergence de la complexité, c'est-à-dire dont la complexité dépasse ce qui est disponible et utilisable à l'intérieur des gènes. Ça joue un rôle aussi important après la naissance, pas simplement dans le développement embryonnaire, et ça se poursuit pendant toute notre vie. Et ça donne du corps une vision plus dynamique, c'est-à-dire d'un corps qui est en permanence en train à la fois de se déconstruire et de se reconstruire. Il y a plus de 100 milliards de cellules dans notre corps qui s'autodétruisent chaque jour, ce qui fait à peu près plusieurs centaines de milliers par seconde. Et donc, vous voyez que lorsqu'on a l'image d'un corps qui ne bouge pas parce que notre apparence nous donne l'impression d'une immobilité, comme souvent ce que révèle la science, c'est que l'immobilité à toutes les échelles où on la regarde est faite en fait de mouvements qui donne un état stationnaire, mais ce n'est pas parce que l'état est stationnaire que ce n'est pas en train de bouger. Ça donne des très grandes capacités d'adaptation, c'est-à-dire que dans beaucoup de circonstances, disposer d'un plus grand nombre de cellules ne consiste pas à les faire naître, mais à empêcher celles qui sont nées de s'autodétruire. Et donc ces mécanismes d'adaptation sont extrêmement rapides. Et puis ce qui est intéressant et important aussi, c'est que les cellules qui persistent longtemps en nous, les cellules de notre cerveau, les cellules de notre cœur, un certain nombre de cellules, sont aussi fragiles que celles qui disparaissent et qui renaissent chaque jour. Et donc elles ont besoin, tout au long de leur vie, d'un certain nombre d'interactions avec d'autres cellules pour continuer à survivre. Et si elles ne les ont pas, à ce moment, elles vont s'autodétruire. Donc d'une certaine façon, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, un individu, un organisme, est autant constitué de ce qui lui manque quand on le regarde, de tout ce qui a disparu au cours de sa construction et qui lui a permis de se construire, que de ce qui reste de ce qui a été créé. Et donc, d'une certaine façon, l'absence de ce qui a disparu a joué un rôle extrêmement important dans l'état dans lequel nous le voyons. Ça joue un rôle aussi dans les maladies. Beaucoup de maladies dont on croyait qu'elles étaient dues à la destruction anormale de cellules par quelque chose qui venait les agresser sont aujourd'hui expliquées par un changement d'environnement qui va entraîner de manière inappropriée la disparition anormale d'un grand nombre de cellules. Et à l'inverse, de manière très schématique, des situations dans lesquelles on pensait que le problème était un problème de fécondité cellulaire, des cellules faisaient trop de petits, dont l'exemple extrême est le cancer, résulte sans doute à une étape très précoce d'une perte de la capacité de ces cellules à s'autodétruire, ce qui fait qu'elles deviennent non pas immortelles, mais moins mortelles que les cellules normales, et que si elles font des petits, eh bien leurs petits auront les mêmes caractéristiques. Ça vous donne d'ailleurs une notion intéressante, c'est qu'on dit souvent que les cellules cancéreuses sont immortelles. Elles ne sont pas immortelles, ce sont les populations qui se renouvellent, c'est la capacité à renouveler une population, c'est comme une population d'animal qui se renouvelle, c'est pas pour ça que chacun des organismes est immortel. Mais quand on dit immortel, c'est intéressant de voir que la perte de la capacité à mourir de manière prématurée met tellement en danger le corps que nous faisons une adéquation avec l'immortalité. En fait, une cellule cancéreuse est une cellule qui est devenue incapable dans certaines circonstances de s'autodétruire, et donc elle ne mourra que si son environnement la détruit ou ne lui procure pas les ressources nécessaires pour continuer à vivre. Donc on voit en image à miroir quelle importance joue en permanence cette capacité à déclencher l'autodestruction sans que rien de l'extérieur ne vienne détruire. Les rapports, il y a beaucoup de maladies qui sont dues à nos relations avec les micro-organismes, avec les virus, avec les bactéries, avec les parasites. Mais toute une série de relations avec ces bactéries, ces virus et ces parasites ne sont pas de l'ordre de la santé ou de la maladie. Elles sont au contraire de l'ordre de notre vie. Nous sommes pleins de micro-organismes qui participent à notre vie. Une grande partie des relations entre ces micro-organismes et les corps qu'ils colonisent se joue sur le thème du déclenchement ou de la répression de la mort cellulaire dans les cellules infectées et dans les cellules voisines. Et donc si on se place sur des temps plus longs, non pas à l'échelle d'un individu, à l'échelle d'une génération, mais à l'échelle de nombreuses générations, eh bien, des travaux indiquent que les interactions incessantes entre les microbes et les corps qu'ils colonisent ont sans doute joué un rôle important dans la diversification de ces mécanismes qui contrôlent la vie et la mort des cellules. Et puis, si on essaye de se placer sur des temps encore plus longs, la question devient, quand est-ce que cette capacité de s'autodétruire s'est ancrée, a émergé et s'est ancrée dans des cellules vivantes? Et ce qu'on pense aujourd'hui, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que cette capacité d'autodestruction, dont beaucoup pensaient qu'elle était d'apparition récente dans l'évolution, qu'elle était contemporaine de l'émergence des premiers animaux et des premières plantes, donc il y a à peu près 1 milliard d'années, elle est universelle, c'est-à-dire qu'on la retrouve dans tous les organismes vivants, y compris les bactéries, qui sont les organismes les plus ancestraux. Et donc cette universalité, vous savez que nous sommes entourés de contemporains et que nos ancêtres, comme je le disais tout à l'heure, ont disparu, mais cette universalité fait penser que sans doute c'est quelque chose de très ancien qui s'est propagé depuis longtemps. Il y a des arguments théoriques pour penser que ça pourrait être peut-être aussi ancien que la vie elle-même. Et pour penser, ce qu'un certain nombre d'éléments suggèrent maintenant, pour penser que au fond, ce qui déconstruit une cellule, c'est une utilisation particulière de ce qui la construit. Et que donc, d'une certaine façon, il n'y a pas des gènes et des outils de mort qui seraient radicalement différents des gènes et des outils de vie. Mais il y a certaines façons d'utiliser des outils de vie qui se traduisent par l'autodestruction. Et donc, une des idées, c'est que ces phénomènes de mort sont une variation qui a évolué, qui s'est raffiné au cours de l'évolution, sur des phénomènes qui permettent de construire et de propager la vie au niveau cellulaire. Si je passe maintenant à un autre niveau, qui n'est pas celui des cellules qui composent l'ensemble du vivant, mais qui est celui des organismes, celui des individus. Comme je le disais tout à l'heure, la deuxième question sur la mort obligatoire, la mort inéluctable, elle concerne le vieillissement. Et sans être trop long sur ce sujet, en étant un peu schématique, l'idée actuellement, depuis une quinzaine d'années, c'est que les choses sont un peu du même ordre. C'est-à-dire que ce qui fait vieillir, ce qu'on pourrait appeler les exécuteurs du vieillissement, sont des mécanismes qui jouent un rôle extrêmement important dans la construction des organismes, en particulier dans le développement embryonnaire, et dans leur fécondité et leur fertilité. Et donc, d'une certaine façon, ce qui raccourcit la vie de manière prématurée ou ce qui l'interrompt est aussi ce qui permet de la construire. Et puis, vous avez des protecteurs dont les effets s'opposent à ceux de ces exécuteurs et qui retardent, plus ou moins suivant les espèces, le moment où cet effet de déconstruction va commencer. Donc, constructeurs qui vont être des exécuteurs plus tard, et puis protecteurs qui freinent. Et ces équilibres qui se sont faits de manière aveugle au cours de la généalogie de chaque espèce ont un caractère relativement arbitraire. Et des travaux récents indiquent qu'en manipulant très peu de choses, un gène sur des milliers de gènes, ou en modifiant l'environnement, et la façon la plus universelle de modifier cet environnement, c'est de diminuer la quantité de calories présentes dans la nourriture, ce qu'on appelle la restriction calorique. Donc ces deux mécanismes permettent de dépasser la longévité maximale naturelle dans des organismes aussi différents, séparés par des centaines de millions d'années de divergence d'un point de vue évolutionniste, que sont un petit ver transparent qui s'appelle Caenorhabditis elegans, la mouche du vinaigre ou drosophile, ou la souris. Et donc, dans toutes ces espèces, modifier un gène ou modifier un facteur de l'environnement va entraîner au moins un dépassement de l'espérance de vie maximale, dite normale, de 30%. C'est comme si dans l'espèce humaine, la limite de vie maximale n'était pas 120 ans, mais 160 ans. Donc ces 160 ans, qui évidemment ne se traduisent pas en tant d'années, sont atteints dans ces différentes espèces. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qui est gagné en temps de vie, ce n'est pas un temps de vie âgé, c'est un temps de vie jeune. Donc en fait, ce qui est augmenté, c'est le temps de la jeunesse, puis l'animal vieillit et disparaît. Et donc vous voyez qu'il y a une très grande plasticité dans ces phénomènes. Et il y a l'idée, comme ce que je vous exposais au niveau des phénomènes de mort cellulaire, que d'une certaine façon, si je devais le dire comme ça, ce qui nous fait vieillir et disparaître est en partie ce qui nous a permis de naître. Et que d'une certaine façon, ce qui se traduit en projection dans le futur, quand on parle de fécondité, se traduit rétrospectivement en termes de généalogie. Et que malheureusement, pour nous, en tant qu'êtres pensants, eh bien, l'équilibre sur lequel ces phénomènes se sont réglés nous paraît, surtout s'ils sont déplaçables, ne pas être ceux que nous considérions comme optimaux. Mais vous voyez qu'il y a dans cette généalogie du vivant l'idée que quelque chose qui nous apparaît comme scandaleux, extérieur, anormal, et qui est la disparition, est sans doute intrinsèquement lié à la capacité même du vivant de se propager et de donner naissance à la nouveauté. Évidemment, quand on arrive dans une dimension humaine, quelle que soit la raison pour laquelle nous disparaissons, cette disparition est une tragédie. Et c'est la disparition d'une personne singulière, unique et éphémère comme nous tous. Et dans cette approche qui n'est plus une approche, je dirais, des sciences du vivant, ou qui n'est plus une vision qui est purement fondée sur la découverte de lois biologiques, je pense là encore que cette notion de manque que j'évoquais au début est importante. Elle est importante, vous savez qu'elle est au cœur de la recherche même. La recherche, c'est l'exploration de ce qui manque aujourd'hui à la connaissance. Et quand on fait de l'histoire rétrospective des sciences, c'est beaucoup plus facile de prévoir le futur quand on se plonge dans l'histoire du passé, parce qu'on voit ce que le passé est advenu que d'essayer de savoir ce qui adviendra demain. Eh bien, on s'aperçoit que, avant Darwin, la connaissance de son époque était riche du manque de ce que la révolution darwinienne allait apporter. À la fin du 19e siècle, les connaissances de la physique étaient riches du manque de ce que la théorie de la relativité et la mécanique quantique allaient apporter. Et donc, aujourd'hui, on peut penser que notre connaissance est riche du manque de ce que la recherche de demain apportera. Et d'une certaine façon, de manière souvent paradoxale, penser que la recherche de demain sera féconde, c'est penser que nos connaissances sont pleines de manques. Et ça demande au fond à la fois la fierté de l'ensemble des connaissances qui ont été accumulées et l'humilité devant l'attente de ce qui viendra demain. C'est que le physicien David Gross disait que la science efface l'ignorance d'hier et révèle l'ignorance d'aujourd'hui. Et le grand physicien Richard Feynman disait que ce qui n'est pas entouré d'incertitude ne peut être la vérité. Et donc je crois que garder dans la connaissance, au cœur de la connaissance, une place pour ce qui est inconnu, donc que par définition on ne peut pas préciser, mais savoir que c'est là en tant qu'inconnu, que c'est là en train peut-être un jour de pouvoir naître, c'est quelque chose qui est important. Il y a un deuxième niveau dans lequel la notion du manque joue un rôle crucial lorsqu'il s'agit de l'humain, c'est de maintenir une distance entre ce que nous apprenons, ce que nous connaissons sur le vivant et sur l'humain, et la manière dont nous nous représentons chacun les uns les autres. En d'autres termes, c'est l'humilité qui consiste à penser que ce que la science nous dit de nous-mêmes est à la fois merveilleux, mais incomplet. Et incomplet cette fois, peut-être pas parce que la recherche n'a pas encore donné tous ses fruits, mais parce qu'il y a une incomplétude, un manque d'une autre nature. La démarche scientifique, la démarche qui produit des connaissances, d'une manière très générale, il ne s'agit pas simplement de sciences dites dures, mais il s'agit aussi de la sociologie, il s'agit aussi de l'histoire, il s'agit de toutes les entreprises scientifiques, explore, et c'est pour ça qu'elle est féconde et qu'elle produit des résultats, ce qu'elle étudie comme un objet vu de l'extérieur. Et elle regarde quelles sont les forces, les relations de causalité qui déterminent les caractéristiques et le comportement de cet objet. En faisant ça, la science, et c'est sa force, efface la singularité ou une partie de la singularité de l'objet. Vous savez que quand la science réussit à être particulièrement performante, elle fait une formalisation mathématique. C'est-à-dire que l'objet qu'elle étudie devient un point sur une courbe ou un chiffre dans une équation. Lorsque ce que la science étudie est une caractéristique humaine ou une personne humaine, le fait d'être représenté par un point sur une courbe a quelque chose d'assez déshumanisant. Et donc, d'une certaine façon, de par sa nature même, la science nous parle de nous comme des objets régis par des forces aveugles, et nous vivons comme des sujets et des acteurs de notre vie. Dit autrement, la science nous fait de nous-mêmes un récit à la troisième personne du singulier, alors que nous nous la vivons à la première personne du singulier. Martin Buber, dans un très beau livre, il y a 80 ans, qui s'appelle « Je et tu », disait « Nous nous vivons comme je, et la science nous décrit comme il ou elle ». Et donc l'effort qui consiste à créer cette distance, à être persuadé de ce manque, consiste en fait à réinsérer ce que nous apprenons sur nous en tant que il ou elle pour le mettre au service d'un jeu qui dit tu et pour construire avec l'autre un nous. Et donc une partie de la réflexion éthique consiste en fait à tenir compte de cette distance, à tenir cette distance pour d'une certaine façon mettre les connaissances au service de chaque personne et ne pas risquer de mettre les personnes au service des connaissances qu'on croit avoir acquises sur elles. Lorsque cette distance n'est pas maintenue, il y a un risque de confondre la personne ou une caractéristique humaine avec ce qu'on en décrit, ce qu'on en mesure et ce qu'on en comprend. C'est ce qui s'est passé entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle, dans une dérive de la révolution qui était la théorie darwinienne de l'évolution, qui consistait à essayer d'appliquer aux conduites humaines ce qui avait été révélé en termes de fonctionnement des lois de la nature. Et ça a donné le darwinisme social, ça a donné le darwinisme racial. Et c'est dans les dérives les plus extrêmes auxquelles ça a conduit, qui est le génocide nazi, avec des références explicites à la théorie de l'évolution du vivant, ça a été la naissance de la démarche éthique biomédicale moderne. Vous savez que la démarche éthique biomédicale moderne naît en 1947 au procès des médecins nazis de Nuremberg, un an avant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et en particulier, elle va consister à poser l'importance du choix libre et informé, ce qu'à l'époque on appelle d'une manière un peu paternaliste le consentement libre et informé, qui deviendra un des piliers de la recherche biomédicale et aujourd'hui un des piliers de la médecine. Et dans le choix libre et informé, il y a une hiérarchie qui est faite entre la connaissance et la personne. La connaissance est mise au service de la personne pour qu'elle réfléchisse, décide, et ce n'est pas la personne qui est mise au service de la connaissance. Lorsque la personne est réduite à la connaissance qu'on croit avoir tirée d'elle, eh bien, il y a un risque de mesure, de hiérarchisation, de classification, de stigmatisation, d'exclusion, que l'évolutionniste Stephen Jay Gould a tragiquement décrit dans un très beau livre qui s'appelle « La malmesure de l'homme », en montrant justement les dérives auxquelles on conduit jusqu'au milieu du XXe siècle, cette application, cette transposition directe de ce qu'apporte la biologie à la vision de l'homme. Un grand économiste s'appelle Amartya Sen, a récemment, dans son avant-dernier livre, fait le même raisonnement, mais en dehors de la biologie, dans un contexte complètement différent. Ce livre s'appelle « Identité et violence, l'illusion d'un destin ». Et ce que dit très simplement Amartya Sen, c'est que nous avons tous des identités multiples, philosophiques, familiales, biologiques, nationales, professionnelles, et que non seulement elles sont multiples, mais elles sont changeantes au fur et à mesure de nos rencontres, de nos activités et du temps. Et que enfermer quelqu'un dans une de ses identités, comme si c'était la seule, est pour lui la source majeure de discrimination et de violence actuellement dans le monde. Et donc vous voyez que sur deux plans très différents, l'utilisation de la science biologique pour enfermer quelqu'un dans une identité particulière, ou d'une manière beaucoup plus générale, utiliser les connaissances qu'on acquiert, quelle que soit la source de ces connaissances et quelle que soit la démarche scientifique qui mène, pour enfermer quelqu'un dans ce que la science a permis d'en dire, est quelque chose de réducteur, est quelque chose qui, a priori, risque d'être vivant. Et je crois que quand Buber parle du « jeu », on revient à ce que je disais au début, il s'agit de conscience, il s'agit de vie intérieure. Et d'une certaine façon, ce manque, cette distance entre la connaissance que je peux avoir vue du dehors et ce que vit une personne, il y a le respect pour ce qui est par définition incommunicable, que nous ne pouvons qu'imaginer, que nous ne pouvons qu'approcher, et qui est la vie intérieure de l'autre. Et donc il y a cette distance. Et vous savez que cette vie intérieure a pris, dans des domaines tout à fait différents, une valeur considérable. Actuellement, en médecine, d'un point de vue médical et légal, une personne est déclarée morte, non pas quand son corps cesse d'être vivant, mais quand on ne détecte plus d'activité cérébrale, ce qu'on appelle par un mot impropre la mort cérébrale. Ce n'est pas le cerveau qui est mort en tant qu'organe, c'est simplement qu'on ne détecte plus de capacité à fonctionner et qu'on pense que c'est irréversible. En d'autres termes, une personne peut être morte en tant que personne humaine alors que son corps est encore vivant. Et c'est d'ailleurs cette situation qui existe, par exemple, dans le don d'organes. Et donc on voit bien qu'il y a une espèce d'image en miroir du « je pense, donc je suis » de Descartes, qui serait « je ne pense plus, donc je ne suis plus en tant que personne », ce qui par définition est quelque chose, est une proposition impossible, qui est traduite par « si je ne peux plus détecter que tu penses, mais c'est même pas que tu penses, si je ne peux plus détecter que tu as une vie intérieure, alors tu n'es plus ». Et donc vous voyez que même en médecine, cette distance entre ce qui pourrait être de l'ordre biologique, un arbre est mort, un animal est mort, quand son corps est mort, a pris une autre dimension, par respect pour quelque chose qu'encore une fois, on essaye de mesurer, mais en le posant comme non mesurable. C'est la meilleure façon que nous ayons d'approcher de l'extérieur, quelque chose que nous croyons essentiel et central dans la vie humaine. Et je crois que c'est cette idée, cette distance, encore une fois, elle est indissociablement liée à la notion de droit, de dignité, de respect pour la personne. En gros, le droit, la dignité, le respect pour la personne, c'est de poser comme premier que tout ce que je peux en mesurer, en décrire, en comprendre, ne peut pas rendre compte de cette personne. Elle est plus que ça. Je crois que c'est ce qui fonde le concept d'égalité, et qui est souvent mal compris. Le concept d'égalité, c'est que, quelles que soient les différences innombrables que je peux mesurer, comprendre, décrire, voire modifier, chaque personne est égale à une autre en raison de cette vie intérieure que je ne peux pas justement mesurer de l'extérieur. Et donc je crois qu'il y a quelque chose d'important, il y a quelque chose qui d'ailleurs est une image en miroir, me semble-t-il, moderne, plus moderne, de ce que les religions et les spiritualités ont fait pendant longtemps, qui consistait à dire qu'il y avait quelque chose chez chaque être humain, malheureusement en général c'est pas chez chaque être humain, c'est chez chaque être humain qui appartient à une famille de pensée donnée, mais il y avait chez chaque être humain quelque chose qui était de l'ordre du non mesurable, du non décrivable, du non analysable, et auquel les religions et les spiritualités donnent le nom d'âme ou de sacré. Et je crois que ce qu'a fait la démarche moderne des droits de l'homme depuis les Lumières, c'est de poser la même affirmation. Il existe quelque chose de non mesurable, de non décrivable, mais de le poser comme un manque. Donc d'avoir une démarche beaucoup plus humble, en le posant comme un manque, comme ce qui justement échappe à toute définition, échappe à toute compréhension précise, mais qui est essentiel au niveau et au nom de la personne. Donc je crois que c'est ce qui fonde cette dignité, cette notion d'égalité, cette notion de droit. C'est à la fois la reconnaissance de la valeur essentielle des connaissances et cette distance, la reconnaissance qu'il manque à la connaissance, qu'il manque à la démarche scientifique, quelque chose qui fonde justement les droits de chacun. Vous savez que l'Ecclésiaste dit que ce qui manque ne peut être compté, mais ce qui manque peut être pris en compte, on peut le garder à l'esprit, et je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Le risque, si on l'oublie, c'est de verser dans l'inhumanité. Merci beaucoup.
Des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
D'Aristide de Cyrène jusqu'au mur de mai 68.
L'atome n'est pas un insécable.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Une cuisine est le reflet d'une époque.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
Est-ce que, d'une certaine manière, il n'y a pas derrière tout ça une logique?
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Il y a beaucoup de choses en nous,
les particules élémentaires,
que nous ignorons.
Je veux bien répondre quand même.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Vraiment, ça ne sert à rien.
Bien qu'au fond, on s'aperçoit de plus en plus que...
Das Kapital, une dipoder capitalismus.
L'Agora des Savoirs. Des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
La science est un discours.
Du 4 novembre 2009 au 16 juin 2010, à la découverte de nos origines, une trentaine de grands conférenciers vous invitent à un voyage au cœur de leur discipline. Astrophysiciens et biologistes, philosophes et historiens, théologiens et anthropologues se succèdent. Le mercredi soir à 20h30, salle Rabelais.
Nous étions en direct du centre Rabelais à Montpellier pour cette sixième conférence du deuxième cycle « L'homme, la société, la culture » où ce soir c'était « Penser le manque, la mort dans la condition humaine ». Une conférence qui était donc animée par Jean-Claude Amessin, médecin, immunologiste, chercheur en biologie à l'INSERM. L'intervenant local était Pascal Nouvel, professeur de philosophie des sciences à l'université de Montpellier 3. La semaine prochaine, même heure, même endroit, on se retrouve pour un nouvel Agora avec Camille Tarot, professeur de sociologie à l'université de Caen, spécialiste d'histoire des religions. Qu'est-ce que le sacré ? À la semaine prochaine, même onde, 93.9, Divergence FM.